Bonjour à tous et bienvenue dans Splash & Go, l'émission de la rédaction d'US Racing. Au programme dans la demi-heure de cette semaine de la NASCAR, que de la NASCAR, avec tout ce qui s'est passé à Talladega. Et il y a énormément de choses à dire, il y en a deux qui sont chauds comme des baraques à frites. C'est Lilian à gauche, salut Lilian.
Salut Geoffroy, bonjour à tous.
Et Aloïs à droite, salut Aloïs.
Salut Geoffroy et bonjour à tous, on est chaud patate.
Comme des baraques à frites de Schnorr.
Allez, ça tombe bien, c'est parti messieurs. La NASCAR c'était du côté de Talladega. Il s'est passé énormément de choses. Je sais pas par quoi vous voulez commencer. Peut-être par la victoire de Ryan Blaney, parce que c'est peut-être la chose la plus anecdotique de cette course, Aloïs.
La plus positive en tout cas.
Ou tout du moins la plus logique, vu la physionomie de la course, où on a vu la Team Penske, raviver les cendres de la DEI, parce que je suis désolé, mais je pense qu'on s'y rapproche de plus en plus, vu les performances de Blaney, Keselowski et Logano.
Oh, je suis désolé, moi, les cendres de la DEI, c'est des barbecues.
Je suis assez d'accord. je comprends pas trop d'où tu sors les cendres de la DEI, mais d'accord.
Si, je pense qu'il fait référence au...
Des voitures sur les ovales à plaques de restriction. Enfin,
ouais, les victoires de Walt Tripp et de Dale Earnhardt au début des années 2000. Dale Earnhardt Junior, pardon. Ah,
oui, c'est ce dont à quoi je fais référence. C'est la grande époque de la DEI sur les super speedway. Là, Blaney enchaîne deux victoires de suite à Talladega. Ils ont sorti la stat pendant la
course. Le dernier à avoir fait ça, c'est Jeff Gordon en 2007.
Mais je pensais surtout au nombre de victoires de la Penske sur les 9 ou 11 dernières courses.
Sur les 9 dernières, Logano en a déjà 3.
Mais la Penske gagne quasiment systématiquement la course de Talladega qui est dans les playoffs.
C'est vrai qu'entre Keselowski et Logano...
Je vais chercher la stat sur les 3 larrons de la
Et Blaney, on doit être à 6 ou 7 sur les 9 dernières. Puisqu'on a Chase Elliott l'an dernier qui avait gagné celle-ci.
Alors, je te fais le décompte.
Ouais.
On a Blaney en 2020, donc ce week-end, enfin lundi. On a Blaney également sur l'automne 2019 et Chase Elliott sur le printemps 2019.
Ouais, donc ça fait 2 sur 3.
On a Almirola qui s'intègre.
Ouais.
Et ensuite, on a Logano sur le printemps 2018, Keselowski sur l'automne 2017, Ricky Stenhouse Jr. sur le printemps 2017. Et après, on a encore Logano. Et Keselowski en 2016, Logano en 2015 sur la course des playoffs, on a Keselowski sur la 7 course des playoffs en 2014, et du coup ça fait un...
Ça en fait 8 sur ce que tu as cité.
5, 6, ça fait 8 depuis 2015.
Ouais.
2014 même, depuis les playoffs 2014.
Effectivement, donc ça fait 8 en 14 courses. Ça fait un peu plus de 50%.
Une domination.
Oui, c'est,
oh, puis c'est très bon. C'est à l'image de la course, comme tu l'as dit.
Mais je sais pas vous, mais les 3, si ce n'est des 4, si on rajoute Di Benedetto sur la trajectoire intérieure pendant la majeure partie de la course, étaient phénoménales.
Phénoménaux.
Enfin, la performance.
Ah, d'accord, il essaie de rattraper aux branches.
La performance de...
Ouais, c'est vrai. Pour une fois que tu sors des bonnes stats, faut que tu te plantes sur le français. Ça peut pas être bon partout.
J'ai raison. C'est pas grave.
Mais effectivement, la Penske a été très forte sur cette course. Enfin, on voit que Blaney mène 63 tours. Qui d'autre qui a mené chez Penske? Logano en mène 33. Donc forcément, déjà, ça aide aussi au niveau de la... Brad Keselowski ne mène pas, à contrario.
Bah, il a surtout poussé.
Ouais, il a surtout poussé, oui. Mais voilà, ça montre un petit peu la domination de la Penske, encore une fois, sur cette course, avec un Blaney donc, qui s'impose enfin en 2020. C'est sa première victoire de l'année 2020. C'est quoi? C'est sa seconde victoire de rang à Talladega, on l'a dit. Donc du coup, il se qualifie pour les playoffs de manière, officielle. lui qui est quand même troisième du classement général, ça faisait pratiquement aucun doute que dans 13 courses, il soit en playoff. On est d'accord, Lilian?
Oh non, c'est clair. Et dernière stat que tu n'avais pas encore citée, les trois pilotes Penske ont gagné cette année.
Effectivement, les trois pilotes Penske ont déjà gagné après 13 courses. Et ils ont gagné, enfin, Keselowski a combien de victoires? Il a deux victoires, Logano en a deux, et Ryan Blaney en a une, donc ça fait cinq victoires en 13 courses, ça fait un peu plus d'un tiers. C'est dans la même veine que la Penske à la dégâts. Donc voilà un petit peu sur la Penske, sur Ryan Blaney. Ryan Blaney qui a claqué des portes à Loïs, fin de course. Ça a été le seul qui ait claqué des portes et qui soit resté vivant, parce que Chase Elliott n'a pas eu la même chance avec Brad Keselowski.
Ah bah, Ryan Blaney a fait mieux que survivre, il a surtout annihilé quelques chances de victoire, je pense notamment à Eric Jones et John Hunter Nemechek. Je ne sais pas si c'est l'avis de tout le monde, mais j'ai trouvé la sortie de Trioval assez indécente. Le changement de trajectoire vers l'extérieur pour enfermer Jones et Nemechek contre le mur alors que les petits loulous sont à 200 miles à l'heure, je trouve que c'est très dangereux. Et je trouve qu'ils s'en rendent bien compte en sortant de la voiture en interview d'après-course.
Après, c'est pour la gagne.
Ouais, est-ce que c'était nécessaire de les foutre dans le mur aussi violemment? Certes, Eric Jones a quand même changé de trajectoire de manière assez agressive pour rester gentil, pour pas dire totalement inconsidéré.
Il a failli partir une paire de fois à la faute avec Nemechek qui le poussait bien comme il faudrait aussi.
Oui, parce
donc,
que
tu vois, en sortie de virage 4, c'était tout juste.
Je pense surtout dans le trioval. Moi, ce qui me choque surtout, c'est les différentes manœuvres dans le trioval où Eric Jones va à l'intérieur, enfin plonge à l'intérieur, ressort à l'extérieur de manière brusque. Cette manœuvre n'était pas totalement correcte, on va dire, mais le bloc de Blaney est pour moi dangereux et indécent.
Mais
à mon avis, et je suis vraiment pas fan de ce genre de manœuvre.
C'est sûr. Après, enfin voilà, t'es autour 191 en l'occurrence. Alors je dis pas que ça excuse, hein, mais tu fais la même chose autour 50. Ouais, là c'est complètement idiot, complètement débile. Et puis, enfin, ces 500 derniers mètres, Aloïs, c'est ce qu'on discutait pendant la course. Hein. C'est à l'image de cet overtime complètement bordélique avec des mecs qui rentrent au stand parce qu'ils sont en panne d'essence et qui désorganisent totalement la ligne intérieure. C'était Ryan Newman et Clint Bowyer de mémoire. Voilà, c'était une fin de course complètement folle. Malheureusement, c'est du Talladega et malheureusement, ça se passe très souvent comme ça. Donc.
Et encore, je trouve qu'il y a eu très peu de tôle froissée pour du Talladega.
Oh bah, à part chez Elliott, oui.
Ouais, chez Elliott et qui, ouais, et Austin Dillon qui ne peut l'éviter, sinon.
Sinon, on s'en sort très très bien, oui.
Ouais, voilà, des fois, on se plaint que les courses de Talladega sont un peu longues et monotones. Là, ça a été très intense. On s'est vraiment pas ennuyé sur cette course du début à la fin. Et on a eu très peu de tôle froissée.
On a eu beaucoup de pluie.
Ouais, voilà, on a que la pluie qui est venue nous empêcher.
On s'en sort aussi pas trop mal, niveau pluie, je pense.
Ah oh bah oui, c'est sûr, une course qui termine le lundi au lieu du dimanche.
Non, je parle surtout du lundi, ça aurait pu être pire. On aurait pu avoir une moitié de pluie pendant des heures. Et au final, comme Moïse a séparé la mer Rouge en deux, la pluie a évité le Talladega Super Speedway.
Ouais, effectivement, on peut voir ça comme ça. Alors, du coup, Ryan Blaney qui s'impose, 7 millième devant Ricky Stenhouse Jr. Aloïs, je sais que c'était ton grand favori pour 7 millième, tu y as cru?
J'ai la haine.
Oh. Ouais, puis, ça aurait été mérité, c'est vrai que ça aurait été mérité. Enfin, Stenhouse a quand même été, il était dans les 2-3 meilleures voitures du jour, c'est clair.
Ah bah, il a fait le spectacle avec Kyle Busch une bonne partie de la course. Je pense qu'on peut décrire cette course pour faire un résumé très 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 succinct. C'est la Penske versus Kyle Busch et Stenhouse Jr.
Ouais. Kyle Busch.
Excuse-moi, Geoffroy, t'ai coupé. Stenhouse, c'était la seule Chevrolet qui a vraiment tenu la route, comme tu l'as dit, Aloïs, face à l'armada Penske. Quoi.
Ouais, qui avait le rythme. Hein. Et Kyle Busch a été un très bon pousseur tout au long de la course, quand même. Hein, parce qu'il y avait des moments, le duo 18-47 était quand même pas beaucoup plus fort, mais en tout cas semblait plus fort que la Penske à l'intérieur.
Bah, ils étaient meilleurs en 2 contre 4. Mmh. Ils arrivaient à remonter le paquet, à faire du side draft en bon moment, à remonter sur la trajectoire centrale sans l'aide de beaucoup de monde. Et je pense que ça indique également que leur voiture est très très rapide.
Effectivement. Et le troisième de cette course, messieurs, c'est encore un pilote Ford, c'est Rick Almirola, qui passe la ligne d'arrivée dans une position assez inconfortable.
À l'envers.
À l'envers, enfin, oui, à l'envers, mais pas sur le toit.
Ça, c'était Bowyer en 2007.
C'était Bowyer en 2007, c'était au Daytona 500.
C'était exact. Surtout Newman un peu plus tôt cette année.
C'est vrai.
Aussi. Donc, Almirola qui passe à l'envers, mais qui conserve la troisième place d'un rien face à Denny Hamlin. Eric Jones, cinquième. Finalement, la prestation d'ensemble des pilotes Gibbs, c'est pas forcément les pilotes qu'on attendait, puisque Kyle Busch a dominé, mais Kyle Busch n'a pas gagné. Kyle Busch finit même beaucoup plus loin. Il termine à deux tours en 32e position. Donc ouais, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a Chris Buescher qui fait 6e. J'ai rien à dire, monsieur Chris Buescher. 7e, Alex Bowman. 8e, meilleur rookie, John Hunter Nemechek. Il y avait longtemps, pour le coup.
Il aurait pu espérer mieux sans cette incartade au dernier virage.
Ah bah, sans l'accrochage avec Eric Jones, c'est une 3e place au pire. Mais bon, ça reste quand même, cela dit, son meilleur résultat en carrière. 9e, Kurt Busch. Et 10e, Kevin Harvick, qui signe un nouveau top 10 cette année.
Surtout, la Stewarta, c'était peut-être la seule écurie à s'être trouvée dans les derniers tours. Ils se sont retrouvés sur la ligne inférieure à moins de 10 tours de l'arrivée. Si je ne dis pas de bêtises, il y avait Harvick, Custer, Bowyer. Et je ne sais pas s'il y avait un quatrième, j'ai un doute.
Harvick, Custer, Bowyer. Bah non, tu voulais que ce soit qui le quatrième ? Almirola ? Almirola était bien au-dessus.
Peut-être Almirola, ou je sais pas s'il était un peu à l'écart, mais en tout cas, on se demandait, enfin, on se disait qu'au final, dans les derniers tours, la Penske, la Gibbs, la Hendrick jouaient solo, parce qu'ils n'arrivaient pas à se trouver dans les derniers tours, au contraire de la Stewartas qui, surtout Harvick, jouait tranquille pendant la totalité de la course, en étant bien loin du haut du paquet, du premier paquet. Et au final, dans les derniers tours, ils ont pu remonter le draft assez, j'ai envie de dire, discrètement pour jouer les premiers rangs. Ça n'a pas fonctionné. Mais en tout du moins, on peut quand même souligner que la Stewartas était au devant au meilleur moment.
Effectivement. Et l'image de la fin de course, c'est Bubba Wallace qui vient féliciter Ryan Blaney, Aloïs.
Effectivement, mais je pense que c'est pas l'image dont on va se souvenir de Bubba Wallace à Talladega.
Ah non.
Ce lundi.
Non, mais enfin voilà, les deux sont potes et c'était histoire de clôturer cette course d'une belle manière, parce que on va quand même aborder l'extra sportif. C'est quand même parti sévère en couille pour rester poli.
Ah bah, c'était inattendu. J'ai jamais vu ça depuis que je regarde la NASCAR.
Ah non, mais moi, je te vois, moi non plus.
Juste avant d'enregistrer l'émission,
oui.
J'ai vu un message sur les réseaux sociaux disant quand même que la NASCAR faisait plus pour un seul pilote afro-américain que ce que la NFL fait pour les 80% de ses propres joueurs. J'exagère peut-être les 80%, j'ai pas la statistique en tête, mais au moins les deux tiers des joueurs en NFL sont afro-américains et on entend aucune voix émergée de NFL, qui est le sport numéro 1 aux États-Unis. Mmh. Alors que la NASCAR fait le plus grand bruit et a un seul pilote afro-américain dans ses rangs. Et ça, je trouve que ça veut dire énormément sur la situation actuelle.
Alors, est-ce qu'on voit des drapeaux confédérés dans les stades de NFL ?
Oh, tu vois tout dans un stade NFL.
Ok.
Tu vois tout, surtout des hommes un petit peu éméchés, pour rester gentil. Et quand des hommes éméchés, de plutôt blancs, pas très éduqués et éventuellement un petit peu républicains sur les bords, je t'annonce que certains mots échappent très facilement de leur bouche.
Ok.
Tu veux dire que ce sont des cons fédérés ?
Je te laisse mettre de tes propres mots. Mais oui.
Alors, on va quand même rappeler les faits. Donc,
il y en a plusieurs.
Ah bah, il y en a plusieurs. Enfin, la liste est longue. J'espère que vous avez du temps, messieurs. Dimanche, on devait avoir une course. Hein, faut pas se cacher. Mais il a plu. Il a plu. Il a tellement plu que la NASCAR a fini par reporter la course à lundi. Donc ça, c'était presque normal puisque on a quand même une météo de merde cette saison en NASCAR depuis pratiquement le début. Voilà, la course est reportée au lendemain, la course est reportée au lendemain, hein, on était tous comme ça, on s'en doutait. Et quelques heures plus tard, on apprend, Lilian, qu'un nœud coulant a été découvert dans le garage de Bubba Wallace, seul pilote afro-américain de la NASCAR, en tout cas de la Cup. C'est pas lui qui l'a découvert, soit dit en passant, mais ça pose quand même après tout un tas de questions, et on est dans l'Alabama, et on rappelle quand même que Bubba Wallace, il est originaire de l'Alabama aussi, hein, accessoirement.
En plus.
C'est histoire de rajouter un petit peu à cette scène de racisme absolument inouïe, ce que tu disais, Lilian. Une telle violence, on n'en a jamais vu, enfin, autant non. Qu'on s'en souvienne.
Non, puis, voilà, je vais être transparent. Voilà, c'est toi, Geoffroy, qui m'a informé. Sur le coup, j'ai vu ça, j'y ai pas cru. Je dis, qu'est-ce qu'il nous raconte encore comme blague? Je pense à de l'humour noir, comme des fois, bon, on raconte des bêtises entre nous. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais c'est vrai. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte comme bêtise, Geoffroy? Et puis, non, en fait, non, c'était la réalité. J'ai dit, oh là là, mais j'ai eu honte, quoi. J'ai dit, mais c'est pas possible, ils ont pas pu faire ça.
Et précisons également qu'avant cette course, il y a eu des défilés de rednecks sur des trucks avec des...
Oui, il y a eu des vidéos sur Twitter, ouais.
Confédérés qui tournaient autour de...
Du circuit, ouais.
C'était fermé pour des causes sanitaires. Mm-hmm. Il n'y avait pas de spectateurs autorisés sur place. Mais également, un avion de tourisme a fait le tour du Talladega Super Speedway avec un drapeau confédéré de quoi, de 20 mètres sur 20 mètres, avec un message qui disait texto « Defund NASCAR ». Donc, comme tu l'as dit, Geoffroy, couper les vivres à la NASCAR.
Oui, voilà. Ça, donc, c'était...
Histoire de rajouter encore, oui.
Donc, de ce jour-ci, de dimanche, et on a appris cette nouvelle d'une coulant, nous, en France, après... Enfin, très tard, donc après le report de la course.
Oui, ça tombe sur les coups en France. Il doit être. Il doit 23h être. Quelque chose. Ah non, le report de la course, 23h minuit. Mais l'histoire du nœud coulant, c'est quelque chose comme 4h du matin pour nous. Parce que bah, je le vois à 8h quand j'allume mon ordi perso. Et l'info, elle a à peine 4h. Et enfin, c'est pareil, j'ai lu. Et, je vais pas dire que j'ai cru à une mauvaise blague, mais j'ai dit mais on rêve quoi. Enfin, dans quel monde on vit, c'est quand même fou. Et on a appris par la suite, je crois que c'était lundi soir dans l'ordre des choses, que pareil, il y a eu un nœud coulant qui a été retrouvé en Californie sur le Sonoma Raceway. Et ça, en fait, le nœud coulant, il a été découvert samedi. Donc chronologiquement, c'est avant tout ça.
À savoir que le nœud coulant de Talladega, Bubba Wallace ne l'a pas vu. C'était accroché au plafond de son garage et c'est un de ses propres mécanos qui l'a découvert, je pense par hasard, à mon avis par hasard, dans le garage au-dessus, je pense pas très loin de la 43, de la voiture en elle-même. Mmh. Et c'est un point que beaucoup de gens... médias locaux, ou tout du moins médias nationaux aux États-Unis, ont soulevé, c'est que la NASCAR a annoncé on va trouver cet énergumène et on va le bannir à vie de la NASCAR. Et tout le monde était d'accord pour dire que la recherche va être vite faite, parce qu'il y a très 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 peu de monde qui a accès au garage.
Bah, concrètement, il n'y a que les mécaniciens. Il n'y a que les mécaniciens et les officiels, puisque les 5000 spectateurs étaient cantonnés aux tribunes. Donc oui, ça voudrait dire, après voilà, on n'y est pas, le FBI mène son enquête, mais ça voudrait dire que ce sera en interne. Donc ça voudrait dire, si on suit ça, que c'est l'une des personnes qui a défilé derrière, derrière Bubba Wallace et les pilotes lundi. Enfin, ce serait quand même dramatique.
Ça pourrait être quelqu'un de la sécurité également, puisque eux ont les credentials pour accéder au garage également. C'était une hypothèse qui a été soulevée, tout du moins, ça pourrait être possible.
Oui, ça pourrait être possible aussi. Mais c'est vrai qu'après, pour revenir à ce que tu disais sur le défilé des drapeaux confédérés à l'extérieur du circuit, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, enfin, ça dépend dans quel sens on se place, c'était attendu. Vu que les gens n'avaient pas le droit d'accès au tracé avec le drapeau confédéré, malheureusement, ça sentait le défilé à l'extérieur, la parade en guise de provocation. Donc, ouais, je dis.
Je m'attendais franchement pas du tout à des faits aussi graves et comme il y a autant de monde quoi. Aloïs, oui, la semaine dernière avait dit. Un peu pour rire, allez, je vais pronostiquer 3 ou 4 drapeaux des confédérés, on va en voir, c'est sûr. Ok, peut-être, mais là, de là avoir un défilé des suprémacistes, ouais, non, c'était complètement inattendu, surréaliste, honteux, il y a les mots manquent, mais ouais, que ça aille aussi loin, c'est dire les tensions qu'il peut y avoir actuellement aux États-Unis à ce sujet-là.
Après, qu'est-ce qui est de plus irréaliste, enfin surréaliste comme tu disais Lilian? Est-ce que c'est le défilé des confédérés autour du Talladega Super Speedway? Ou alors est-ce que c'est le ralliement de tous les pilotes et de tous les mécanos pour lutter contre le racisme, notamment dans ce cas-ci en NASCAR?
Oui, c'est clair qu'il y a eu à l'initiative de Harvick. Il y a eu une très très belle réaction avant le drapeau vert, puisque tout le monde s'est uni derrière Darrell Wallace. D'ailleurs, il a fait une très très belle photo qui a fini sur les réseaux sociaux. Donc ça, oui, je pense que c'est une belle réponse d'unité. Malheureusement, si c'est quelqu'un parmi tout ce groupe-là sur cette photo qui a mis un nœud coulant dans son garage, malheureusement, ça entache un petit peu cette jolie photo, selon moi.
Pour moi, honnêtement, ce serait absolument terrible, tout du moins d'une écurie engagée aujourd'hui en Cup. Ce serait même pire que terrible, ce serait honteux et ça ferait des vagues, mais absolument inimaginables.
Et ce qui est incroyable aussi, après, est-ce que c'est dommage que ce soit la NASCAR qui fasse ça? C'est que la NASCAR réagisse ainsi et qu'à l'initiative de Kevin Harvick, on fasse ça. Je veux dire, il n'y a quand même eu aucune réaction politique, hormis, je crois, le gouverneur de l'Alabama qui s'est dit choqué, outré. On n'a rien entendu, il n'y a eu aucune réaction dans les hautes sphères politiques des États-Unis. Ou alors, j'ai raté un épisode, Aloïs.
La situation politique aux États-Unis, tu peux très facilement louper un épisode.
D'accord.
Mais.
Parce qu'il ne faut pas dire qu'ils n'en ont pas parlé. Surtout avec le peu de sport qu'il y a actuellement.
Non, honnêtement, je vous conseille par ailleurs de regarder une vidéo de réaction de Marty Smith, qui est journaliste à ESPN. Et il a échangé avec Scott Van Pelt, qui est qui est l'animateur de Sports Center, donc qui est une des plus grandes émissions sportives aux États-Unis sur ESPN.
Ouais.
Et Marty Smith a quand même super bien frappé au centre de la cible et il explique vraiment ses émotions sur le choc et la honte qu'il a de cet acte abject de placer un nœud coulant dans le garage de Bubba Wallace.
J'ai trouvé que Jeff Gordon était aussi paraissait très ému lundi.
Mais c'est ce que disait Clint Boyer assez rustrement sur Twitter juste avant la course. Il a dit si tu t'en prends à un des nôtres, tu t'en prends à toute la famille.
Oui, c'est vrai que c'est une grande famille, ils vivent 38 semaines par an ensemble sur les différents circuits, et encore plus depuis la mi-mai que les conditions sanitaires sont compliquées et qu'on arrive du côté de la NASCAR à maintenir des courses. Donc c'est vrai que c'est un peu une très grande famille.
Comme... Je pense que cette notion de famille a été encore plus prégnante au moment où tous les pilotes ont poussé la 43 sur le devant de la scène avant la course de lundi soir.
Oui, tout ouais, à fait.
Je trouve. Et par contre, tu vois, à contrario, moi, quelque chose qui m'embête, alors j'aurais pu le mettre dans mon j'aime pas, mais je vais en parler maintenant, c'est qu'on a parlé de cette histoire dans les médias sportifs français, je ne vais pas citer de nom, mais encore une fois, on parle de ces sports, des sports auto-américains, c'est soit quand il y a des gros accidents, soit quand il y a des morts, ou c'est pour des actes comme ça. Encore une fois, pour donner une très belle image des sports auto aux États-Unis. Excuse-moi, mais ça me gaffe.
Comment tu viens de faire un spoil sur mon j'aime pas ?
Ah, merde. Et quand en plus ces broquets qui disent le NASCAR, alors qu'on dit la NASCAR, parce que pour rappel, c'est une association. Si on traduit. Pardon ?
Je dis merci Lilian.
Ah ouais, non, mais c'est trop du cul qu'ils mettent le NASCAR, ça me saoule.
Et en plus, ils le mettent en minuscule.
Oui, en plus, ouais, c'est ça, c'est N majuscule et après les autres en minuscule, ouais.
C'est ça, et ils disent le seul pilote noir, et qu'est-ce qu'ils rajoutent d'autre ? Que c'est lui qui a trouvé. Non, non, c'est pas lui qui l'a trouvé. Hein
Déjà, il y a. Oh oui, c'est bourré de fautes, et ils s'intéressent à ça que quand il y a des choses un petit peu politico-intéressantes à dire. Donc, ouais, non, c'est. Ça m'énerve.
Après, pour revenir sur ce que tu disais, Geoffroy, tout à l'heure, sur l'aspect politique, je trouve que le leadership de Steve Phelps,
oui,
pas facile à dire, est quand même incroyablement ouvert et incroyablement progressiste par rapport au précédent président de la NASCAR. Et on ne l'avait pas encore entendu beaucoup parler, je pense qu'on ne l'entend pas beaucoup tout court, mais les actions depuis... le bannissement
du drapeau confédéré
à Atlanta, toutes les décisions et toutes ces sorties médiatiques ont été incroyablement progressistes, et pour un sport considéré très conservateur et républicain comme la NASCAR, c'est une direction qui est forte, mais c'est même pire, c'est beaucoup plus que fort, c'est incroyablement puissant, et je pense qu'on s'en rend pas assez compte.
Oui, c'est une...
La NASCAR est en train de prendre un tournant historique dans son histoire, et tout du moins dans son côté, dans son aspect culturel.
C'est une avancée qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a une vingtaine d'années.
Tu me dis, il y a 2 ans, j'aurais jamais imaginé, tu vois.
Oui, même il y a 2 ans, mais bon, voilà, pour remonter encore plus loin, c'est vrai que Steve Phelps fait des choses et prend des positions. Ça vient peut-être aussi du fait qu'il n'est pas lié à la famille France. Alors tu vas me dire, Mike Elton non plus. Mais Mike Elton travaillait avec Brian France, et Mike Elton était le premier président après la famille France, donc on pouvait peut-être pas non plus mettre un changement de barre très rapidement, très, très facilement. C'était peut-être aussi un petit peu compliqué, il était peut-être un petit peu pieds et poings liés, le monsieur. Ensuite, messieurs, sur les conséquences de ce drapeau confédéré, il y avait quand même 2 infos qui étaient passées totalement inaperçues, qui ont été d'ailleurs divulguées quand ce début de semaine, et qui concernent 2 pilotes du Mississippi, si je ne dis pas de bêtises, Tommy Joe Martin et Ricky Stenhouse Jr., qui ont enlevé le drapeau qu'ils ont au niveau de la ceinture de leur combinaison, puisque le drapeau de l'État du Mississippi contient le drapeau confédéré, Lilian.
Oui, oui, on a vu une news récemment voilà, qui pour moi, oui, est une bonne chose et qui montre justement le plein soutien à Bubba Wallace. Et puis, ça respecte aussi, j'ai envie de dire, voilà, cette nouvelle règle qui est d'interdire. Si on bannit les drapeaux des confédérés dans les tribunes et pour les fans de la discipline, que ça s'applique aussi aux pilotes. Clairement, il faut que ce soit la même chose pour tout le monde. Même si là, voilà, c'est le drapeau de l'État, bon, voilà, il inclut dedans, on l'enlève, et ils ont raison. C'est une bonne chose, clairement, c'est une bonne chose.
Mais de toute manière, c'est un mouvement qui existe dans plusieurs sports, parce que de mon côté, en NCAA, donc les sports universitaires américains, certaines universités et certains joueurs de l'État du Mississippi font pression Par exemple, je pense à la conférence du sud-est des États-Unis, donc la conférence SEC pour les connaisseurs, qui a déjà fait pression sur l'État du Mississippi pour modifier son drapeau. Et le running back star de l'université de Mississippi State, donc l'une des deux plus grandes universités publiques de l'État, a dit qu'il ne jouerait pas tant que l'État du Mississippi n'avait pas modifié son drapeau. Donc, au même titre que Tommy Joe Martins et Ricky Stenhouse Jr., il existe un mouvement pour faire changer les choses dans différents sports, à différents niveaux, différents âges, différentes cultures, et c'est vraiment un changement qui est vraiment prégnant dans tous les sports nord-américains depuis quelques semaines.
Et effectivement, oui, vas-y, Lilian.
Est-ce que le plus grand changement, ça serait pas, tu en parlais tout à l'heure, quand justement la NFL prendra le sujet ou même le problème à bras le corps, parce que ça reste quand même. Bon, moi je regarde pas, hein, mais de ce que vous en dites, et du peu que je connais, le sport numéro un aux États-Unis. Là, tu disais que la NFL, jusqu'à présent, n'a jamais rien fait, ou très très peu, pour endiguer le problème. Est-ce que là, s'il y a des actions de la part de la NFL, voilà, ce sera vraiment une prise de conscience générale, j'ai envie de dire.
C'est pour l'instant silence radio à NFL. Et bon, il y a deux raisons qui semblent...
On est loin de la reprise aussi.
Certes. Mais j'ai des doutes à voir la NFL rentrer dans le jeu pour deux raisons qui sont relativement simples, tout du moins pour ceux qui connaissent un petit peu l'environnement. C'est que, un, c'est un business qui brasse des milliards de dollars. Et dès qu'on rentre la donnée de l'argent, les langues et les bouches se ferment. Donc ça va être beaucoup plus difficile de faire remonter des avis plutôt progressistes. Ça existe, mais ils sont surtout noyés dans la masse. Et le second aspect, à mon sens, c'est que en NFL, les propriétaires des différentes franchises sont déjà des multimillionnaires, si ce n'est des milliardaires, qui sont quasiment tous blancs, si je dis pas tous, doivent être tous blancs, et plutôt conservateur. Donc, j'ai des problèmes à voir une progression arriver en NFL, au contraire de la NBA, qui est historiquement un sport très progressiste du point de vue culturel. Et souvent, les avancées culturelles dans le sport viennent de la NBA, pour différentes raisons, comme la présence absolument majoritaire de joueurs afro-américains, et du fait que le basketball est beaucoup plus populaire que le football américain, par exemple.
D'accord.
Enfin, populaire, je dis populaire dans le sens proche du peuple, pas qui est connu de tous. Puisqu'il est beaucoup plus simple de prendre un ballon et de shooter dans des arceaux que de jouer au football à X joueurs sur un terrain défini, etc. C'est beaucoup plus compliqué.
Oui, donc... puis avoir toutes les protections...
Exactement. Et c'est pour ça que je trouve que l'évolution des mentalités et la progression culturelle en NASCAR est vraiment un moment historique, parce que on a l'impression que le changement vient de ce sport en premier lieu, et en général il était considéré comme étant à la traîne, comme étant le vilain petit canard républicain parmi les sports majeurs aux États-Unis. Donc c'est vraiment un tournant que j'avais pas vu venir, clairement, qui me fait chaud au cœur et qui indique finalement de bonnes choses pour le futur. On a souvent été critique du futur d'un NASCAR, on a tous été dans le même sac, mais du coup, le futur de la NASCAR quand même s'embellit avec cette ouverture, tout du moins sur le point de vue racial.
Mais oui, et puis pour faire écho un peu à ce qu'on disait, il y a deux semaines, trois semaines, quand il parlait des drapeaux confédérés, enfin du drapeau confédéré et de son abolition, encore une fois, le sport devient politique. Et, même si, c'est ce que je disais, je suis contre que le sport soit une tribune politique, là, pour le coup, ça fait un bien fou. Et tant mieux, enfin pour l'image de la NASCAR, parce que là on va continuer de parler de la NASCAR pendant quelques semaines suite à ce qui s'est passé, et on va en parler en bien pour une fois. Ça va pas être on va en parler en mal, parce qu'il y a eu un grave accident, parce qu'il y en a encore un qui s'est retourné, parce qu'une voiture est passée à travers les grillages. Donc voilà, on va plutôt parler de la NASCAR comme tu le disais, hein, d'une entité progressiste et favorable à tous ces changements.
Mais alors, la NASCAR aurait pu être sous le coup des critiques très facilement, puisque on a été habitué pendant des décennies à ce que la NASCAR cache et juste passe un petit coup de balai, on met sous le tapis ce genre d'événement. Là, le changement, c'est que la NASCAR rend public ce genre d'informations immédiatement et surtout condamne ces actes fermement, que ce soit le drapeau confédéré totalement banni, à que ce soit le par rapport au nœud coulant retrouvé dans le garage de la 43, du « on va trouver, entre guillemets, je cite, ce connard, et on va le bannir à tout jamais de n'importe quelle relation avec le sport ». Et le changement, il est là. C'est que au lieu de cacher et de dire vous avez rien vu, c'est rien passé, c'est ok, aujourd'hui on est du côté de Bubba Wallace pour représenter les Afro-Américains, que ce soit dans le sport mais que ce soit dans toute la communauté afro-américaine aux États-Unis. Et c'est là le vrai changement, c'est à cet endroit-là où la NASCAR réussit son coup, j'ai envie de dire. C'est un peu une formulation. C'est pas top, mais elle réussit son entreprise à condamner ces actes qui étaient, sans le dire, plus ou moins acceptés, ou tout du moins...
Tolérés.
Vous faites votre truc de votre côté, on regarde pas.
Ouais. Et puis bon, on a de la chance, on est aux États-Unis, il y a encore la peine de mort, avec un peu de chance.
Bah dans l'Alabama, je crois que...
Si, si.
C'est encore valable, la peine
de mort. Oui.
Ah c'est oui, ça. Ouais.
Mais du coup, est-ce qu'on pourrait envisager en mesure forte, messieurs, la NASCAR qui se passe de certains de ces États confédérés, sachant que les États confédérés en NASCAR, Caroline du Sud, Floride, Alabama, Géorgie, Texas, Virginie, Tennessee, Caroline du Nord, Arizona, Kentucky. Ça fait quelques courses.
Bah, ça fait, oui, tu t'en avais parlé, ça fait quand même une bonne partie du calendrier.
Honnêtement, j'y crois pas. Ce serait plus se tirer une balle dans le pied à ce niveau-là. Parce que, qu'on se le dise, on était tous un petit peu circonspects sur la reprise de la NASCAR. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, depuis la quarantaine, la NASCAR a réussi 100% de sa reprise.
Ah, puis elle fait un bon buzz médiatique.
Sur tous les points de vue, que ce soit d'un point de vue racial avec les tensions qui ont émergé ces dernières semaines, mais aussi du point de vue sportif, qui est, je pense, un grand succès sur de nombreux points. Il faut qu'elle continue dans cette direction et pas qu'elle saute des étapes. Parce que brûler les étapes et supprimer les pistes des ex-États confédérés, ce serait clairement se tirer une balle dans le pied, puisqu'au final... c'est les pistes les plus populaires.
Ça fait juste 20 des 36 courses.
Ouais, ça attrait surtout beaucoup de monde, au final, que ce soit devant la télé, mais également sur les pistes quand elles seront ouvertes au public.
Ouais.
Non, puis c'est pas à la NASCAR de plus aller sur ces circuits, c'est aux États à mettre en place des mesures fortes. Voilà, enfin, la ségrégation, c'est fini, faut arrêter les conneries aussi, quoi. On est en 2020, voilà. Et à un moment, il est vraiment temps que des mesures fortes soient prises.
Surtout que la NASCAR a un ambassadeur parfait de cette cause en Bubba Wallace. On peut dire ce qu'on veut du pilote, mais en tant que personne et en tant qu'être humain, et en tant que représentant de la communauté afro-américaine dans les États du Sud, parce que comme disait Geoffroy, il est né et il a grandi dans l'Alabama, je pense qu'on ne peut pas avoir meilleure personne que Bubba Wallace.
Et d'ailleurs, c'était une belle image en fin de course, il a été salué quelques supporters afro-américains qui faisait partie des 5000 personnes présentes dans les tribunes du Talladega Super Speedway.
Bon, Lilian, va falloir arrêter de nous brûler nos j'aime et nos j'aime pas là. Hein.
Oh là là !
Ça va pas le faire. Hein.
Et le pire, c'est que le deuxième j'aime pas de Geoffroy, je lui ai piqué aussi.
Eh ben allez, messieurs, je vous propose de découvrir ça tout de suite. Et Lilian, je t'écoute pour ton j'aime et ton j'aime pas.
Bon, j'aime. C'est la série d'épisodes sur Michael Jordan qui était diffusée sur Netflix, pour ne pas faire de pub, The Last Dance. Arnaud en avait parlé il y a quelques semaines. Ça m'a donné envie de regarder. J'y connais absolument rien au basket. Ne serait-ce que quelques grands noms et les principales règles. Mais clairement, je vous conseille cette série si vous êtes abonné à Netflix. C'est hyper bien tourné. On est vraiment dedans pendant les 10 épisodes. Clairement, je vous conseille.
Et le j'aime pas ?
Le j'aime pas. Écoute, j'ai pas pris le temps d'en chercher un autre, hein, donc du coup, je te le pique aussi. Le grave accident, une nouvelle fois, dont a été victime Alessandro Zanardi, donc, ancien pilote de monoplace aux États-Unis, en Formule 1. Donc là, il a été victime d'un gros accident en handbike. Donc ça s'est déroulé en Italie. Et donc, il est toujours en soins intensifs à l'hôpital. Alors apparemment, le pronostic vital n'est plus engagé, mais il est encore dans un état jugé très sérieux. Donc, gros coup dur pour Zanardi.
J'ai pas suivi, mais il lui arrivait quoi au volant, au guidon de son handbike ?
Il a percuté un camion.
Voilà.
Ah merde.
Oui.
Ah.
Du coup, il a apparemment tous les os du visage qui sont fracturés. Il doit y avoir également trauma crânien. Donc encore une fois, ouais, c'est gros combat physique et gros coup dur pour Zanardi une nouvelle fois.
Ouais, mais bon, il nous a montré.
Rappel,
hein,
ceux qui auraient oublié, il a perdu ses jambes à l'issue d'un gros accident. À l'époque, c'était encore le kart.
Sur le Lausitz en 2001.
Et voilà, donc en Allemagne, ouais.
Effectivement. Zanardi qui nous a prouvé qu'il avait la fureur de vivre et qu'il était capable de s'accrocher alors que tout le monde en 2001 lui prédisait un destin funeste suite à son accident, et non, il a survécu, il est remonté dans une monoplace justement de chez Monen pour boucler les 13 derniers tours de la course, il a été champion olympique depuis, et il a fait des courses je crois en BTCC ou en WTCC de manière régulière, en endurance aussi, donc je crois qu'il a fait les 24 heures du Mans, il nous a fait des choses, et il est capable de s'accrocher, et on espère tous que sa condition va s'améliorer dans les prochains jours.
Bah, on lui souhaite surtout beaucoup de courage, et on lui souhaite un bon rétablissement, on espère qu'il va bien s'en sortir, parce que au-delà d'être un ancien pilote de monoplace, et surtout aujourd'hui un représentant et un ambassadeur majeur du sport, du handisport,
oui,
du sport pour les handicapés à travers le monde.
Effectivement.
Par ses histoires et par ses exploits sportifs.
C'est quelqu'un de très populaire en Italie aussi, au-delà de ça.
Aloïs, ton j'aime et ton j'aime pas.
Du coup, mon j'aime, moi, je vais le garder, parce que je vais prendre une petite tournure différente. Mais ouais, la présence de supporters afro-américains dans les tribunes à Talladega qui se sont rapprochés des grillages à la fin de la course et auprès desquels Bubba Wallace est allé serrer la main. On ne notera pas le non-respect des gestes barrières, évidemment. Masque du Bubba Wallace, on ne dira rien. Mais en tout cas, c'était une image forte. On l'a vu encore une fois extrêmement ému, comme dans l'avant-course. Et ces personnes-là avaient par exemple des t-shirts Black Lives Matter et beaucoup de t-shirts différents sur la cause pour les Afro-Américains et contre les violences policières par exemple. Donc c'est une image encore qui est extrêmement forte, et c'est un truc qu'on n'aurait jamais vu il y a quelques semaines, si ce n'est quelques mois, sur une piste de NASCAR. Donc gros j'aime. Surtout, et on peut remplacer ça dans le cadre de toutes les actions médiatiques qu'il y a eu en faveur des droits afro-américains et de la personne en soutien à Bubba Wallace.
Et le j'aime pas ?
J'avais plutôt un j'aime à la place.
Bon,
un deuxième j'aime, c'était dans la même veine que Lilian sur un reportage sportif. C'était le reportage à propos de Lance Armstrong, qui a été réalisé et publié par ESPN donc en deux parties. Je l'ai regardé personnellement sur l'ESPN Player, donc si vous y avez accès, go. Et c'était très, 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 très intéressant sur une personne assez décriée dans le milieu du cyclisme. Et par exemple, je te le recommande vivement, Geoffroy.
Eh ben écoute, je vais essayer de regarder ça dès que j'ai du temps libre. Vu que j'ai plus de j'aime pas, merci Lilian. C'est un peu mon j'aime pas, c'est Lilian qui me pique mes j'aime pas.
Mais de rien, ce sera un plaisir de revenir.
Ouais, c'est ça, ouais. Je vais te couper les vivres.
Ah, ça y est, tu vas envoyer un avion passer au-dessus de chez moi aussi, c'est ça?
Ouais, exactement.
Fais gaffe, Lilian, si t'entends du bruit, c'est peut-être l'avion.
Du coup, deux j'aime, messieurs, on n'en a pas parlé, mais le sauvetage de Ryan Blaney pendant la course est juste magnifique. Quand il manque de partir complètement en travers, poussé par Brad Keselowski et qui prend la tête dans la foulée. C'était une très belle image. Et mon second j'aime, c'est la semaine dernière, j'ai reçu un super poster des champions NASCAR avec leur voiture depuis, je crois, 1965. Donc voilà, je suis en quête d'un cadre pour pouvoir l'accrocher et que ça fasse joli.
Solide.
Exactement.
Nice. Par contre, pour revenir sur le sauvetage de Ryan Blaney,
non.
J'aime beaucoup le mouvement le mouvement de ses gants qu'on voit à travers le pare-brise de la caméra est quand même assez exceptionnel.
Oui, enfin le mouvement de du volant quoi, de enfin
oui, de ses mains pas, sur le volant
de ses mains, oui.
Son action.
C'est pas que les gants qui bougent quoi.
Mais les gants étaient fluo, donc on les voyait bien et on voyait qu'ils se battaient carrément avec la voiture.
Allez, messieurs, très vite, Pocono. Donc,
Pocono. Le double header.
Le double header. Bah oui, non, mais le double header. Donc, il est prévu samedi et dimanche. Mais. Ah, je suis désolé. Je l'avais annoncé l'année dernière en septembre, au moment de la publication du calendrier. J'ai dit vivement Pocono, s'il pleut, ça va être le bordel. Eh ben, qu'est-ce qu'ils nous annoncent cette semaine? De la flotte. Alors pour certains c'est samedi, pour d'autres c'est dimanche. Bonne chance.
Sur mon téléphone, je viens de voir, c'est orage le samedi et dimanche.
Ah, c'est bon ça. Ah là, tu me mets en joie.
On n'a pas assez galéré avec la météo depuis le début de la saison. Il nous fallait le double header de Pocono.
Ouais.
Non, mais quelle idée de faire un double header sur un endroit où il pleut tout le temps.
Ouais, mais bon, on a de la chance. Il n'y a pas suffisamment de lumière pour pouvoir faire les courses en nocturne.
Ah.
Donc voilà. Les horaires, vous les aurez sur le site d'ici la fin de la semaine. Faut que je les fasse. Voilà. Mais je les ai, j'ai juste pas les horaires du départ.
Mais ça devient habituel, malheureusement.
Malheureusement, ça devient habituel.
C'est TBD. C'est pas ça, non?
Ouais, c'est ça, c'est TBD, ouais.
TBD.
À déterminer pour les non anglophones. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur Pocono?
On va avoir des sécheuses en piste plus qu'autre chose.
ouais. Bah s'il y en a autant qu'à Talladega, ça peut être sympa. Hein, ça peut nous faire une belle bataille avec un beau travers de port aussi de la sécheuse dimanche. Ah,
ça aurait pu être un gemme ça.
Ça aurait pu être le gemme. Ouais, j'y ai repensé après coup.
Le travers de du Air Titan sur le haut du banking est quand même assez beau et le rattrapage est encore plus beau.
Magnifique, effectivement.
C'est là que tu vois les 33 degrés en haut.
Facile, ça passe crème.
Franchement, je sais pas comment tu dois te sentir à la place du pilote quand tu vois que ta sécheuse est en train de partir complètement au travers et tu dis « Oh merde
!» Oh merde, surtout qu'il y a du monde en bas et qu'on sait que les sécheuses... Ben, Monteux, il en a visité une fois.
T'as un beau barbecue.
C'était un beau son et lumière.
Pour la Saint-Jean, ça colle au final. Hein.
Ouais, mais bon, la Saint-Jean, c'est qu'une fois dans l'année, quoi. Donc voilà. Messieurs, je vous propose qu'on arrête cette demi-heure de 50 minutes ici. Hein. Encore une fois.
50 minutes, c'est la base. Hein.
Encore une fois, on a débordé, c'est ça. Mais nous on est dans un espace-temps totalement différent. Une demi-heure chez nous, c'est 50-55 minutes. Ne vous inquiétez pas. Mais on le vit très bien. C'est pour ça qu'on trouve les courses très courtes en NASCAR. Messieurs, merci. Rendez-vous ce week-end pour des courses peut-être de hors-bord, peut-être de voiture, peut-être de rien du tout.
Un petit peu de pêche.
Ouais, c'est ça. Il y aura peut-être de la neige, en fait. On fera peut-être du ski de fond à Pocono. Je ne sais
pas quand on fera la prochaine émission, du coup.
Ah bah, la semaine prochaine, quoi qu'il arrive, il faudra présenter Indianapolis en IndyCar. Donc, mais bon, comme il n'y aura rien à dire sur l'actualité IndyCar, c'est vrai qu'on fera peut-être pas d'émission.
Et puis t'auras pas les horaires non plus.
C'est pas faux.
Les horaires de la course de NASCAR ou d'IndyCar?
Oh, les deux, mon capitaine.
Ok, on est bon, on est paré.
On est paré, mais
ça,
on...
c'est une équipe de choc.
C'est ça. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous ce week-end avec nous sur le site et sur les réseaux sociaux. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer qu'il ne se sera rien passé. Salut tout le monde, bonne semaine, bye bye.
Bonne semaine à tous, à la prochaine.
Et bonne semaine et bonne course sous la pluie.